Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 8 novembre. Un centre d'appel de prévention au suicide vient d'être lancé à Lyon pour recevoir les appels locaux du 31-14. Explication dans le courant de cette édition. Supécolidaire passe la vitesse supérieure et s'installe à Limonest. 5 ans après sa création, l'école compte aujourd'hui 200 étudiants et forme notamment les futurs professionnels engagés dans la transition écologique, solidaire et citoyenne. Les habitants de Saint-Laurent-de-Mur invités à donner leur avis sur un projet inédit, la construction du premier crématorium animalier du département. L'entreprise Céleste prévoit d'embaucher 15 personnes. Après Lyon, la métropole, Vaux-en-Velin, Rieux, Genas ou encore Vénissieux, c'est au tour de Vernaison de décrocher le label Terre de Jeux 2024. Les collectivités labellisées s'engagent à déployer des programmes liés au sport et à faire vivre les émotions du sport et des jeux à leur population. Dans cette édition, nous interrogerons Julien Huimard, le maire de Vernaison, commune qui n'a pas attendu les JO pour développer de nombreuses pratiques sportives. Et puis les résultats de sport du week-end, l'Olympique lyonnais en particulier, humilié à Rennes 4-1, c'était hier soir.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un centre d'appel de prévention au suicide vient d'être lancé à Lyon pour recevoir les appels locaux du 31-14, une initiative du centre hospitalier du Vinatier. Implanté au cœur du plateau de régulation des appels du SAMU 69, la cellule téléphonique répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux appels émis depuis les départements du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le suicide concerne, il faut le rappeler, 12 000 personnes en France, dont 800 dans le Rhône chaque année. Le plus souvent, ce sont des jeunes et des personnes âgées. C'est même la première cause de mortalité chez les 25-35 ans. Depuis l'ouverture de la cellule téléphonique, il y a un peu plus d'un mois, l'équipe a déjà traité 500 appels. Supécolidaire passe la vitesse supérieure. 5 ans après sa création, l'école compte aujourd'hui 200 étudiants. Cette école indépendante forme des étudiants souhaitant devenir des professionnels engagés dans la transition écologique, solidaire et citoyenne. 2 cycles sont proposés, Bac plus 3, bachelor européen, et Bac plus 5, master européen, accessible en admission post-bac ou parallèle. Anaïs Buclon est directrice des études à Supécolidaire.
On a environ 80 intervenants qui viennent pour dispenser des cours sur leur spécialisation, vraiment, ce sont des experts, hein, donc ils viennent parler de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et donc il y a à la fois le côté théorique et en même temps beaucoup d'exercices pratiques en groupe avec les étudiants pour qu'ils comprennent vraiment de quoi ils retournent. Donc par exemple, que ce soit en humanitaire ou que ce soit en RSE ou dans d'autres matières, vraiment l'idée c'est de faire bien comprendre aux étudiants de quoi ils retournent, de les faire s'exercer, voilà, de donner des exemples assez concrets. Donc on a une intervenante en RSE qui va vraiment présenter elle ce qu'elle fait, donc ça donne aussi les étudiants, ça leur fait comprendre un petit peu ce qu'on fait plus tard quand on travaille quand on travaille dans une entreprise pour justement la rendre plus écologique, plus sociale, etc. S'occuper de tous ces aspects-là. Et ça leur permet aussi un petit peu d'échanger avec ces intervenants. Ça leur fait un carnet d'adresses aussi, ce qui est très important. L'idée, c'est vraiment de voir de manière pluridisciplinaire et transversale nos 3 piliers, que ce soit l'écologie, la solidarité ou la citoyenneté. On les retrouve dans les différentes matières. Pour vous donner un exemple peut-être un petit peu plus concret, donc il y a par exemple de l'anglais, donc qui est obligatoire, qui est dispensé tous les ans. Et donc en anglais, on peut avoir des cours sur le minimalisme, des cours sur la dystopie, sur vraiment des thématiques qui rappellent ce qu'on va voir au sein de l'école, donc nos différentes thématiques.
Installé à Limonest depuis peu, Supécolidaire conduit vers un large choix de métiers au sein d'associations, d'ONG, de collectivités et d'entreprises responsables. Nous avons rencontré Étienne Spataro, le directeur de l'école.
Alors Supécolidaire est une école qui forme à l'écologie, la solidarité et la citoyenneté. On est parti du constat que dans ces domaines, il n'existait pas d'école qui proposait une approche globale de la transition sociétale. Il y a des écoles spécialisées dans l'écologie, d'autres dans le social ou dans l'humanitaire, mais avoir un cursus complet en 5 ans après le bac, avec un niveau bac plus 3 et bac plus 5, ça n'existait pas, ça nous semblait répondre aux enjeux du 21e siècle.
Quelles sont les conditions d'accès à cette école?
Il est possible d'entrer en admission post-bac ou en admission parallèle directement en 2e, 3e ou 4e année du cursus. Nous proposons un cursus bac plus 3 bachelor et bac plus 5 master, expert de la transition écologique, solidaire et citoyenne.
Quels sont les débouchés finalement quand on a suivi cette formation de 3 ou 5 ans?
La formation de l'école Supécolidaire conduit à plus d'une 30aine de métiers qu'on peut exercer au sein d'associations, d'ONG, d'entreprises ou de collectivités, ou en tant qu'indépendant, en tant que créateur, entrepreneur social ou écologique. On peut par exemple être chargé de plaidoyer ou de campagne en association, être responsable développement durable en entreprise ou responsable RSE, travailler pour une collectivité pour l'accompagner sur les démarches sociales et écologiques au niveau du territoire, ou être conseiller, consultant, formateur ou entrepreneur sur les questions écologiques et solidaires.
La transition, c'est donc un sujet qui est transversal.
Tout à fait, la transition écologique, solidaire et citoyenne est un sujet transversal et l'idée à Sup Écolidaire, c'est d'avoir un cursus complet, pluridisciplinaire, qui apporte ces différents aspects.
Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes sont intéressés par ce genre de formation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, c'est vrai, dans les médias. Il y a des médias même qui sont consacrés à ce genre de sujet. Est-ce que les étudiants frappent à la porte pour pouvoir également recevoir une formation adéquate?
Il y a une réelle prise de conscience de la jeunesse, des enjeux écologiques, solidaires et citoyens. Et l'objectif de l'école Sup Écolidaire est de pouvoir les former dans ces domaines pour qu'ils puissent par la suite, par leur métier, devenir des acteurs du changement. Avec un niveau Bac plus 3, les étudiants peuvent par exemple être coordinateurs, animateurs et après évoluer vers des postes de chargé de mission, de chef de projet ou de directeur de structure.
Je crois que vous avez beaucoup de passerelles avec des partenaires. Quel type de partenaires par exemple travaillent avec vous et pour faire quoi?
Nous avons mis en place plus d'une centaine de partenariats, donc un réseau d'une centaine de structures partenaires de l'école qui peuvent notamment intervenir pour proposer des projets tutorés ou des stages avec nos étudiants. L'objectif est de permettre à nos étudiants d'avoir des liens assez forts avec les acteurs professionnels, les acteurs de la transition.
Transformer la défense de son idéal en un véritable projet professionnel, c'est ce que propose Sup Écolidaire à des jeunes soucieux de donner du sens à leur carrière. Sup Écolidaire est installé à Limonest, un site pour se renseigner, supécolidaire.com. Les habitants de Saint-Laurent-de-Mur sont invités à donner leur avis sur un projet inédit. La consultation est menée à partir de demain jusqu'au 6 décembre. Et ce projet, c'est la construction du premier crématorium animalier du département. Il sera situé le long de l'A432 dans la ZAC Les Marches du Rhône. L'agglomération lyonnaise n'avait pas de lieu pour permettre aux familles de se recueillir après le décès d'un compagnon à quatre pattes. Le projet va prendre place sur une parcelle de 8000 m² qui va accueillir un bâtiment de 1700 m² avec un impact limité sur l'environnement. Aucune fumée ne sortira des cheminées. Sont prévus 4600 m² d'espace vert, dont un jardin du souvenir et 1000 m² de parking et de voirie. Un hall d'accueil, des salons de recueillement, 4 fours, dont un pour les gros animaux comme les chevaux. 20 000 crémations sont prévues au départ et jusqu'à 40 000 à terme chaque année. Céleste prévoit d'embaucher 15 personnes.
Lyon Demain, médias agitateurs d'idées.
Bonjour Julien Vimard.
Bonjour.
Maire de Vernaison, on apprend que la candidature de votre commune au label Terre de Jeux 2024 a été retenue. Alors 2024 pour les JO de Paris, 2024 bien entendu pour ceux qui n'auraient pas allumé leur télé depuis quelques temps. Quelle est la genèse exactement de ce projet, sachant que vous avez été retenu alors parmi des villes comme Amiens, Armentières, Saint-Dizier, Roanne, Saint-Just-Saint-Rambert? Ça c'est pour la dernière promotion, sachant qu'il y avait déjà beaucoup d'autres villes déjà avant, et notamment la ville de Lyon.
Oui, tout à fait, c'est un choix que nous avons fait de candidater parce que le sport pour nous c'est des valeurs qui sont très très importantes sur la commune de Vernaison. Les JO 2024 c'est quand même un événement majeur, c'est un événement qui se passe en France bien sûr, et ça permet de véhiculer effectivement toutes les valeurs du sport, des valeurs qui nous sont chères, donc des valeurs je dirais de dépassement de soi, des valeurs d'égalité, voilà, des valeurs de respect, des valeurs d'inclusion, et c'est aujourd'hui un message que nous on souhaite faire passer eh bien dans nos associations par exemple, ou lorsqu'on développe une politique jeunesse notamment. On en parlait normalement avec les jeunes de la commune de Vernaison, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir apporter plus de sport dans le quotidien des gens à Vernaison pendant ce fil conducteur qui va mener d'aujourd'hui jusqu'à 2024. Voilà.
Quand on pense sport et Vernaison, on pense tout de suite aux joutes, hein, puisque vous avez le fleuve à côté, mais il y a aussi beaucoup d'autres pratiques. Hein. Alors, j'ai listé, il y a le tennis de table, le basket, il y a la pétanque, les boules, la gymnastique et même les échasses. Je ne sais pas si vous pratiquez, Julien. Mais en tout cas, tous ces clubs vont participer. De quelle façon c'est un grand mouvement qui s'engage sur la commune?
Oui, alors, lorsqu'on a souhaité candidater, c'était vraiment déjà de faire un état des lieux. Hein. C'était de se dire, voilà, on a un tissu associatif qui est plutôt dynamique, et vous avez cité à peu près les grosses associations de la commune de Vernaison qui s'impliquent, qui vivent énormément, qui font beaucoup d'activités. On a aussi des installations sportives intéressantes sur la commune, et puis on a aussi un cadre plutôt nature, hein, sur les bords du Rhône à Vernaison, donc ce qui est relativement prisé par les adeptes des activités physiques, hein. On a beaucoup de joggeurs, de cyclistes, des groupes de remise en forme qui viennent profiter aussi du calme sur les bords du Rhône. Vernaison, ben, c'est aussi un partenariat avec d'autres communes, notamment Grigny, sur la ville de Grigny, sur le trail entre Lonne et Coteau. Et puis, c'est une commune qui est visée par l'arrivée de la Via Rhôna aussi, donc avec une culture vélo qui va se développer, hein, j'imagine, et je l'espère en tout cas. Et donc, on a une vraie dynamique sportive sur la commune. On a la volonté de promouvoir les valeurs du sport, On en parlait tout à l'heure. On parlait d'inclusion, d'égalité, de persévérance, toutes ces choses qui font que on a envie aujourd'hui de pouvoir communiquer sur ces valeurs auprès de nos habitants, auprès de nos jeunes notamment.
Est-ce qu'on a une idée du programme ? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2024 concrètement ? Est-ce que vous avez peut-être un événement au moins à nous donner d'ores et déjà ?
C'est en préparation. Des événements communaux, il va y en avoir. Il va y avoir des démonstrations, il va y avoir des découvertes d'activités sportives qu'on n'aurait pas sur la commune. Au-delà de ça, il y a également d'autres projets de prévus. Il y a des projets municipaux de city stade à construire donc en 2022 sur la commune. On aura des terrains de tennis paddle également qui sont prévus, cofinancés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est justement de pouvoir intégrer aussi ces nouveaux équipements sportifs dans la dynamique qui va se créer à partir de maintenant.
En quelque sorte, c'est un donnant-donnant entre les Jeux Olympiques à qui vous allez apporter du dynamisme et les JO qui vont également mettre en jeu toutes ces valeurs.
Oui, tout à fait. Dès maintenant, on parle de Paris 2024. Je rappelle qu'il y a quand même Pékin 2022 avant, dès février, je crois. Les Jeux d'hiver, donc c'est créer ce fil conducteur. On aura aussi l'occasion de reparler du 23 juin, de la journée des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est des temps forts comme ça qui vont être jalonnés pendant 2 ans jusqu'en 2024. Donc faire parler de Paris 2024 d'une part, et de deux, c'est ce que je disais, c'est promouvoir les valeurs du sport de manière générale.
Merci Julien Vimard, en tout cas de nous avoir répondu sur ce label que vous venez de décrocher, Terre de Jeux 2024. Merci beaucoup.
Merci.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
L'Olympique Lyonnais humilié à Rennes 4-1, des Lyonnais dominés dans tous les compartiments du jeu par une équipe rennaise entraînée par un certain Bruno Genesio. Avec cette 4e défaite en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais continue son parcours très laborieux sur le plan de l'efficacité et du réalisme, et au classement, l'Olympique Lyonnais est 7e. Première victoire de la saison pour l'AS Saint-Etienne, menée 2-0 à moins d'un quart d'heure de la fin. Les joueurs de Claude Puel ont trouvé les ressources pour renverser Clermont 3-2. Les Verts ne sont plus les derniers de la Ligue 1, ils sont 19e. C'est le FC Metz qui est lanterne rouge. 900 supporters se sont réunis hier à la mi-journée devant Geoffroy Guichard. La Saint-Etienne était sanctionnée d'un huis clos total, aucune possibilité donc d'entrer. Les 4 groupes de supporters de Saint-Etienne entendaient réclamer la démission de Claude Puel. Les candidats au rachat de la Saint-Etienne ont jusqu'à ce soir pour déposer un prix d'achat. Olivier Marcarian, qui a revendu la société Marcal l'été dernier, en fait partie. L'homme d'affaires avait bien décidé à reprendre les clés de la Maison Verte, malgré le risque d'une descente en Ligue 2. Le prince cambodgien Norodom Navitchak pourrait revenir dans le jeu, mais avec plusieurs conditions suspensives liées au maintien. Un autre projet, avec des fonds étrangers, serait également en course. Bernard Caillazzo et Roland Romeyer espéraient en tirer 50 millions d'euros. Le chiffre se situerait plutôt entre 15 et 20 millions, compte tenu des piteux résultats de l'équipe. En rugby, le Loup s'impose devant Castres 30-23. Les Lyonnais ont renoué avec la victoire ce week-end. Ils avaient fait le trou avant la 50e minute, mais ils se sont fait peur en fin de match pour finalement l'emporter. Et puis un résultat de boule au terme d'une finale à suspense contre les Italiens de Gaglianico. Saint-Vulba a remporté pour la 2e fois la Coupe d'Europe des clubs champions. Victoire des Indinois 13-9. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez un excellent début de semaine.